Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
La situation sanitaire en France s'est fortement dégradée ces dernières semaines en raison de l'épidémie de Covid-19. Le nombre des contaminations et des hospitalisations, notamment en Île-de-France, a augmenté. Le nombre de patients atteints de la Covid-19 en réanimation a continué d'augmenter hier, atteignant pratiquement le pic de la deuxième vague, selon les données de Santé publique France. Depuis cette semaine, un cas de Covid-19 dans une école donnera lieu à sa fermeture dans les 19 départements concernés.
Concernant la vaccination, la France va récupérer au moins 2 millions de doses du vaccin AstraZeneca sur un stock de 29 millions récemment découvert en Italie. Sur le continent africain, le virus a tué plus de 120 000 personnes et infecté près de 4 millions de personnes selon les dernières données du Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies. La situation actuelle de l'épidémie de Covid-19 en France et en Afrique, nous en parlons ce matin avec nos invités. Cette émission a été enregistrée le 30 mars.
Nous accueillons donc Sophie Fégueux, elle est médecin et infectiologue chargée d'expertise et de projet sur les risques infectieux à Santé publique France. Merci de nous rejoindre, docteur Sophie Fégueux. Il nous rejoint dans un instant en duplex d'Abidjan, docteur Anno Marin. Il est donc basé du côté d'Abidjan. Il est le directeur de l'espace médical La Pyramide à Abidjan. Alors on va commencer avec vous, docteur Sophie Fégueux. Il y a une forte progression de l'épidémie depuis la mi-mars. Le nombre de nouveaux cas identifiés quotidiennement ne cesse de croître. Est-ce que pour vous, la situation est très inquiétante et est-elle pire que ce que nous avons vécu il y a un an ?
Alors, comme vous l'avez dit, depuis à peu près 15 jours, on voit qu'il y a une augmentation nette du nombre de cas, puisque là, effectivement, on arrive à plus de 30 000 cas par jour. Alors, on peut pas dire que ça soit pire que ce qu'on a vécu il y a un an, parce qu'il y a un an, ça avait été très, très brutal. Mais si on regarde, par exemple, les chiffres de réanimation dont vous avez parlé, on arrive maintenant aux chiffres qui étaient ceux de la deuxième vague, c'est-à-dire les chiffres qu'on avait cet automne.
Docteur Sophie Fégueux, des soignants de la PHP craignent de devoir recourir à une médecine de catastrophe. Dans une tribune publiée dimanche dernier par le journal du dimanche, 41 médecins franciliens prévoient d'être dépassés dans les 15 prochains jours. Et le tri des patients a déjà commencé, affirme-t-il. Alors pourquoi la situation dans les services de réanimation est-elle plus difficile concernant cette vague actuelle ?
Alors pour toutes les vagues, la situation est difficile en réanimation. Il faut voir qu'à chaque fois, les réanimations effectivement sont pleines. Alors ce qui est difficile en ce moment, c'est que donc il y a une augmentation très nette et on peut dire que les soignants sont fatigués parce que ça fait un an que l'épidémie dure. Donc dans les services pour des gens dans certaines régions comme par exemple l'Île-de-France qui sont sur le pont depuis un an, c'est vrai qu'il y a une grande fatigue d'avoir à nouveau les services de réanimation qui sont pleins avec des malades qui sont des malades difficiles à prendre en charge.
Les médecins disent que les patients en réanimation restent plus longtemps à l'hôpital. Alors comment on l'explique, Sophie Fégueux ?
Alors, nous, les données qu'on a vues, on voit que les patients sont un peu plus jeunes qu'ils ne l'étaient. Il y a un rajeunissement des personnes en réanimation de 2 ou 3 ans. Alors, pour ce qui est de la durée, moi, je n'ai pas les données. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de réanimateurs, en particulier à Paris ou dans l'Île-de-France, qui ont constaté que les patients restaient quelques jours de plus en réanimation. Mais ça, je n'ai pas les données.
Est-ce que c'est selon vous au fait que c'est le variant britannique qui a pris le dessus concernant les contaminations actuellement en France et notamment en région parisienne ?
Alors oui, c'est vraiment le point très important pour cette troisième vague, c'est l'importance du variant qu'on appelle le variant anglais, qui a été décrit en Angleterre, qui effectivement est en train de prendre le dessus. Il s'approche des 80% maintenant, alors que le virus qui était au départ est en train presque de disparaître, et que les autres variants, ceux qu'on appelle les variants brésiliens, sud-africains, finalement n'augmente pas, voire diminue un peu. Donc c'est vraiment le variant anglais dont on sait qu'il est beaucoup plus, qu'il est plus contagieux et probablement plus grave, qui prend le dessus dans toute la France d'ailleurs.
Et ce qui explique donc le fait que les personnes en réanimation restent plus longtemps à l'hôpital. Cela nécessite peut-être plus de soins.
Alors ça, honnêtement, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, on voit bien que cette troisième vague, elle est quand même très très liée à ce variant anglais, oui.
Alors pour l'instant, 19...
et la plus grande gravité probablement aussi.
19 départements sont soumis à des mesures de freinage. Est-ce que ces mesures sont suffisantes pour stopper l'épidémie? A-t-on aujourd'hui du recul pour savoir les conséquences en fait de ces mesures?
Alors le problème, comme vous le savez, sur les mesures, c'est qu'elles mettent en général au moins 15 jours, 3 semaines à montrer leur efficacité. Donc c'est toujours très difficile de savoir si les mesures sont efficaces. Et finalement, c'est vraiment en suivant en permanence les résultats qu'on peut se faire une idée. Mais c'est vrai qu'il faut toujours du temps. Et le temps, évidemment, on en manque beaucoup en ce moment.
Mais est-ce que ces mesures, parce que beaucoup de personnes disent qu'ils ne voient pas trop la différence depuis l'annonce de ces mesures de freinage, qu'ils ne voient pas trop de différence par rapport aux mesures annoncées précédemment. Est-ce que, selon vous, il faudrait aller plus loin et certains évoquent même un confinement plus strict. Des médecins évoquent un confinement plus strict.
En fait, c'est très difficile de répondre parce que je vous ai dit déjà, il faut du temps pour voir si les mesures de freinage sont efficaces ou pas. Est-ce qu'il faut si l'évolution continue à s'aggraver, il est effectivement probable qu'il y ait des mesures plus sévères, mais ça va vraiment dépendre des chiffres qui sont suivis au jour le jour. Ça va dépendre des données, ce qu'elles deviennent dans les jours, les semaines à venir.
Docteur Sophie Fégueux, la situation dans les écoles pose problème également. Depuis lundi, un cas de Covid-19 dans une classe donnera lieu à sa fermeture dans les 19 départements sous mesure de freinage forte. Il y a le cas, par exemple, d'un lycée de Drancy, en Seine-Saint-Denis, où 22 classes sont fermées et où le personnel exerce son droit de retrait. Faut-il fermer les écoles, selon vous?
Alors d'abord, il faut voir que l'Île-de-France, hein, c'est vraiment à l'heure actuelle la région qui est la plus atteinte. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de départements où la situation est très difficile. En ce qui concerne la fermeture des écoles, c'est finalement assez compliqué parce que il y a une partie des gens, par exemple les réanimateurs, effectivement, qui pensent qu'il faut prendre des mesures de fermeture d'école. Mais à l'opposé, il y a un certain nombre d'enseignants, il y a les pédiatres qui ont publié hier un communiqué qui pensent que l'école, c'est vraiment très très important en termes, par exemple, de santé mentale, en termes d'équilibre, en termes d'égalité des chances. Donc, et qui pensent qu'il faut que c'est vraiment la mesure de dernière extrémité de fermer les écoles. Donc, on est entre ces deux points de vue et c'est la suite qui nous dira ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est vrai que les écoles pour les enfants, c'est également c'est quand même quelque chose de très très important. Et donc la mesure de fermeture d'école, c'est très pénalisant pour les enfants. Donc c'est compliqué à décider.
D'accord. Mais concernant toujours les écoles, alors certains médecins disent que le variant anglais touche également beaucoup les enfants. Est-ce que là aussi c'est un problème concernant le fonctionnement de l'école aujourd'hui?
Alors, le variant anglais, il touche tout le monde, hein, donc effectivement, il touche aussi les enfants, et le souci dont on a parlé au début, c'est qu'il est plus contagieux, donc ce qui veut dire qu'il faut finalement encore plus suivre toutes les mesures. Donc j'en profite pour rappeler que les mesures barrières, c'est-à-dire éviter les contacts rapprochés, mettre son masque sur le nez, pas dessous, se laver les mains régulièrement, et ben, il faut encore plus les faire, parce qu'il s'attrape encore plus facilement que le virus qu'on connaissait jusque-là. Donc pour les écoles, bien sûr, c'est aussi une difficulté, comme pour tout le reste de la population.
Justement, toujours concernant les écoles, on parlait il y a quelques semaines de tests massifs dans les écoles. Qu'en est-il ?
Alors, dans les écoles, il y a de plus en plus de tests. Il va y avoir, il y a les tests à l'hiver qui sont pratiqués. Il va y avoir aussi probablement la pratique d'autotests, mais ça, c'est à partir de 15 ans. Donc, effectivement, on trouve de plus en plus de cas chez les enfants, mais c'est aussi parce qu'on fait de plus en plus de dépistage.
Docteur Anneau-Marin, oui. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est la situation de l'épidémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire actuellement ?
Alors, la situation de Covid-19 en Côte d'Ivoire, elle est tout aussi alarmante comme un peu partout dans le monde, parce que nous avions comparativement en 2020 des chiffres qui sont très élevés, des cas de positivité qui montent jusqu'à 10-19%. On a eu jusqu'à peu de 750 cas en une journée au cours de ce mois de mars. Et nous varions avec des taux de en centaines, 100, 200 par jour de cas de positivité. Le nombre de décès tend vers les 250 aujourd'hui. C'est pas encore arrivé, mais ça tend vers. Et nous avions une infestation massive. L'État de Côte d'Ivoire vient de déclarer l'état d'urgence. Donc, je pense qu'il faut se dire que le comportement des uns et des autres favorise cet état de propagation massive de cette maladie.
Est-ce que les variants britanniques et sud-africains ne sont pas étrangers à cette dégradation de la situation sanitaire que vous évoquez ? En tout cas, c'est le constat que dresse l'OMS. Dans beaucoup de pays africains, c'est à cause des variants britanniques et sud-africains que l'épidémie progresse.
C'est exact, parce que les autorités l'ont souligné, qu'il se pourrait qu'il y ait la variante britannique en Côte d'Ivoire. Parce que vu l'épidémiologie, vu le taux de contamination, nous pensons qu'il doit avoir certainement la présence d'autres variantes qui favorisent cette contamination.
Est-ce que les autorités ont réagi face à cette augmentation des cas de Covid-19 et à la dégradation de la situation sanitaire que vous avez évoquée?
Oui, il y a un conseil scientifique, un conseil national de sécurité qui se réunit régulièrement, qui prend les mesures, qui envisage, organise et puis des campagnes de sensibilisation presque tout au niveau de la prise en charge médicale. Il y a une amélioration, il y a une considération importante de tout ce qui peut être fait pour pouvoir répondre à une riposte assez sérieuse.
Selon les centres africains de prévention et de lutte contre les maladies, il y a actuellement sur le continent près de 4 millions de personnes infectées par le Covid-19 et le virus a tué plus de 120 000 personnes. Est-ce que vous diriez que sur le continent africain, cette vague, cette deuxième vague ou troisième vague est beaucoup plus sévère que la précédente?
Oui, effectivement. La troisième vague ou la deuxième, c'est tout comme, est plus sévère que la précédente parce que nous avons vécu tous la précédente. Est-ce que c'est ce qui a fait que la population a relâché un peu dans son attitude? Est-ce que, parce que souvent on entend dire pour une maladie qui tue une ou deux personnes par semaine, bon, particulièrement en Côte d'Ivoire, elle est moins mortelle que le paludisme et que d'autres pathologies. Donc, il y a un peu ce déni-là, alors que lorsqu'on a les chiffres, on voit qu'il y a une montée très importante. Hein.
Docteur Anneau-Marin, comment se passe la vaccination en Côte d'Ivoire? Est-ce que, comme en France, elle se fait par tranche d'âge?
Alors, effectivement, la vaccination se fait par tranche d'âge. Actuellement, nous sommes au-delà des personnes qui ont plus de 50 ans et elle se fait aussi par corps de métier. Nous avons commencé par les personnels de la santé, les enseignants, les forces de défense et les personnes qui ont plus de 50 ans, comme je le disais tantôt. Et aussi, il y a le facteur d'antécédent médical personnel qui est pris en charge, c'est-à-dire les personnes qui sont porteuses de facteurs de comorbidité, une hypertension artérielle, un diabète, un asthme, une autre virose. Donc, ceux-là sont privilégiés dans la vaccination. Actuellement, nous sommes autour de 35 000 personnes, on tend vers 40 000 personnes vaccinées, sur des estimations de 250 000. Il y a une grande campagne de communication qui doit être faite auprès des populations. Nous sentons quelques réticences, même au niveau des intellectuels, des cadres, qui ne voient pas le bien fondé de cette vaccination. Donc, c'est ce qui crée un petit désagrément au niveau de cette campagne de vaccination.
Et quels sont les vaccins les plus fréquemment utilisés actuellement dans le pays?
Alors, je pense que c'est celui d'AstraZeneca qui est utilisé actuellement dans le pays.
Est-ce que comme en France et dans d'autres pays, il y a des cas de thrombose qui ont été constatés chez les patients ayant été vaccinés par AstraZeneca?
Alors, effectivement, particulièrement pour la thrombose, à dire vrai, je n'en ai pas connaissance. J'ai essayé de me renseigner auprès de certains amis. J'ai pas eu de retour qui affirmerait cela. Mais par contre, les effets indésirables habituels, les effets secondaires, une fièvre, des céphalées, une myalgie au point d'injection, des coups battus, des malaises qui sont passagers, qui durent autour de 48 heures à 72 heures. Ça, il en a eu assez quand même. Mais il n'y a pas eu de cas graves post-vaccinal.
Docteur Sophie Fégueux, quelle est la part aujourd'hui des variants britanniques, sud-africains et brésiliens dans les cas de contamination recensés dernièrement en France?
Alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est le variant qu'on appelle britannique ou anglais qui est en train d'arriver à 80%, donc qui vraiment est devenu largement majoritaire et ça augmente chaque semaine. Par contre, les Sud-Africains et Brésiliens, ils restent stables, voire ils baissent, donc maintenant c'est en dessous de 5%. Donc on voit que c'est le variant dit britannique ou anglais qui est en train d'occuper tout le terrain en France.
Et justement, combien existe-t-il de variants du coronavirus, Sophie Fégueux?
Alors, les variants, en fait, il y en a plein. Si on les cherche, on peut en trouver plein, mais il y en a très très peu finalement qui émergent vraiment. Donc on voit que c'est le variant britannique qui sort. De temps en temps, on en trouve d'autres. Hein. Récemment, on a parlé d'un variant en Bretagne, mais qui finalement est resté très très limité et à l'heure actuelle ne s'étend pas du tout. Dans d'autres pays, on a trouvé d'autres variants, mais finalement, il y a très peu de variants qui vraiment vont se développer et devenir importants dans la population.
Alors, pour qu'on comprenne bien, docteur Sophie Fégueux, ces variants, en fait, se développent parce qu'il y a une résistance de la part du corps humain, une immunité qui fait que le virus s'adapte lui-même. C'est cela? En gros.
Alors, les virus, ils ont tendance à se modifier spontanément au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'il y a certaines mutations qui finalement s'en sortent bien parce qu'elles procurent un avantage au virus. Donc, par exemple, pour le virus britannique, on voit que l'avantage qu'il a, c'est qu'il est plus contagieux. Donc il a un avantage sur les autres variants, sur les autres virus.
Alors justement, pourquoi sont-ils plus contagieux ces variants que le virus premier, venu de Chine?
Oui. Alors on pense que c'est parce qu'il y a une mutation sur la protéine qui est la protéine S qui est sur la surface du virus et c'est justement ce qui lui permet d'aller à l'intérieur des cellules de l'organisme. Donc comme c'est une mutation qui facilite en fait son entrée dans les cellules des gens et donc c'est pour ça qu'on pense que c'est plus contagieux.
Est-ce que les particularités des variants sud-africains et brésiliens sont les mêmes ou y a-t-il des différences?
Alors, déjà, ces trois types de variants, ils ont la même mutation sur la protéine d'entrée. Après, il y a d'autres mutations. Donc, les variants sud-africains et brésiliens, ils ont plusieurs mutations qui sont les mêmes, donc ils se ressemblent plus. Le variant britannique, il est plus à part.
Une personne qui a déjà eu la Covid-19 peut-elle être réinfectée rapidement par un variant, et notamment le variant britannique?
Alors ça, c'est quelque chose qu'on surveille de près. Pour l'instant, il y a quand même très très peu de cas de réinfection. Donc on n'a pas beaucoup de données, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'on surveille. Donc par exemple en France, il y a une surveillance très proche, on essaie de repérer des gens qui se réinfecteraient. Donc pour l'instant, on ne sait pas. On sait que c'est quand même très rare, heureusement, mais que ça existe, hein. Il y a des cas qui ont été décrits, donc on surveille ça de très près.
Docteur Sophie Fégueux, alors parmi ces cas rares, hein, que vous avez évoqués, Est-ce que ce sont des personnes qui ont eu une forme légère de la Covid-19 et qui ont été réinfectées par un variant, ou ceux qui ont fait une forme grave, qui ont été hospitalisés et qui ont été infectés de nouveau par le variant?
Non, enfin, à ma connaissance, pour l'instant, on n'a pas de, il n'y a pas de, comment dire, de profil typique. Enfin, donc déjà, il y en a très peu. Et en plus, il n'y a rien qui sorte. Donc, ça reste quelque chose quand même de très, très rare. Hein. La plupart des gens, une fois qu'ils se sont contaminés et en plus vaccinés, c'est quand même extrêmement rare de se recontaminer.
Alors justement, docteur Sophie Figueux, est-ce que les vaccins actuels sont efficaces selon vous contre ces variants?
Alors, donc évidemment, c'est une question très importante puisqu'on voit que, en particulier sur le variant britannique, qui est en train de prendre tout le marché, si on peut dire. Donc sur le variant britannique, on sait que les vaccins actuels marchent bien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors on s'est posé la question sur les variants, en particulier sud-africains. Sur l'efficacité, on avait des données qui montraient que c'était peut-être moins efficace, mais qu'il y avait quand même une certaine efficacité. Il faut reconnaître que la plupart des données qu'on a maintenant, c'est sur le variant britannique, qui est le variant finalement qu'on a ici, et sur lesquels on voit que les vaccins marchent très bien.
Alors devant plusieurs décès, des cas de thrombose chez des personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca, est-ce que vous conseillez aux personnes ayant des problèmes de coagulation de sang, par exemple, de ne pas se faire vacciner avec AstraZeneca?
Alors, donc il y a eu effectivement des cas qui ont été rapportés de caillots dans le sang, hein, donc de thrombose, avec l'AstraZeneca, et c'est pour ça qu'il a été arrêté pendant 4-5 jours en France. On a attendu d'avoir les données européennes. Alors, ce que les agences du médicament au niveau de l'Europe et au niveau de la France ont trouvé, c'est qu'il n'y a pas plus de cas de caillots, par exemple de phlébite ou d'embolie pulmonaire. Par contre, ça existe comme dans la population. Par contre, il y a quelques cas qui sont très rares, puisqu'il y a eu à peu près 9 cas en France, qui sont des caillots associés en plus à une baisse des plaquettes, qui sont ce qui permet la coagulation dans le sang. Et la conclusion, c'est que ces cas ne remettent pas en cause l'intérêt de ce vaccin et d'ailleurs de l'ensemble de vaccins qui sont quand même très efficaces et qui préviennent beaucoup de morts et beaucoup de maladies, mais qu'il y a quand même quelques cas très rares qu'il faut surveiller, et on essaie de comprendre pourquoi quelques personnes vont faire ces complications. Alors, à l'heure actuelle, les gens qui ont des problèmes de santé, qui ont tendance à faire des caillots, tout ça, le mieux, c'est qu'ils discutent avec leur médecin. Je pense qu'il faut toujours demander conseil à son médecin pour voir avec lui quel vaccin il conseille, quelle surveillance il conseille. Voilà, donc je crois que c'est vraiment, comme on a des complications qui sont vraiment exceptionnelles, et on sait que c'est des gens plutôt jeunes, hein, donc c'est pour ça que maintenant
moins de 55 ans.
AstraZeneca, voilà, on le donne qu'aux gens qui ont plus de 55 ans, on le donne plus aux jeunes. Mais je pense que quand on a des problèmes de santé, qu'on a un doute, il faut vraiment en discuter avec son médecin.
Donc ce que vous dites, c'est que ceux qui ont par exemple un problème de un manque de plaquettes dans leur sang, vous déconseillez de se faire vacciner avec AstraZeneca?
Non, parce que c'est enfin, visiblement, c'est pas des gens qui avaient des plaquettes plus basses avant. Donc, moi, je crois que quand on a un problème de santé, quel qu'il soit, donc effectivement, si on a tendance à faire des caillots, des choses comme ça, le mieux, c'est d'en discuter avec son médecin, parce que ça dépend tellement de chaque personne. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, quand on a moins de 55 ans, on fait pas le vaccin AstraZeneca, c'est au-dessus. Et puis, quel que soit le vaccin, quand on a un souci de santé et qu'on est inquiet, ben, on en discute avec son médecin qui pourra prendre en compte les problèmes de santé qu'on a.
Alors, quels sont les vaccins les plus utilisés actuellement, Sophie Figueux?
Alors, le plus utilisé en premier en France, c'est le vaccin de Pfizer. Le deuxième, c'est le vaccin d'AstraZeneca, et le moins utilisé, parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup qui est arrivé, c'est le vaccin de Moderna, Il faut savoir qu'il y a le quatrième, qui est le vaccin de Janssen, qui va arriver à partir du 19 avril. Donc, on aura quatre vaccins à ce moment-là.
Mais globalement, est-ce que vous savez s'il y a eu des cas, à part les thromboses qu'on a évoquées, y a-t-il eu d'autres effets secondaires chez des personnes ayant été vaccinées par les autres vaccins aussi, pas seulement AstraZeneca?
Oui, alors l'ensemble des vaccins, on sait qu'il y a des effets secondaires. Hein. Il y a assez souvent des douleurs au point d'injection et puis des signes généraux, c'est-à-dire les gens vont avoir le soir et le lendemain, par exemple, de la fièvre, de la fatigue, des frissons. Et ça, en général, ça dure un ou deux jours. Et ça semble un peu plus fréquent chez les gens plus jeunes qui font des réactions plus importantes. Mais c'est des réactions qui sont finalement assez habituelles avec les vaccins, comme par exemple le vaccin de la grippe. Donc c'est des réactions qui sont assez fréquentes, mais qui sont en elles-mêmes pas graves, quoi. C'est désagréable, mais ça n'est pas grave.
Et pour ceux qui ont déjà eu la COVID-19, est-ce qu'il faut une dose de vaccin ou deux doses?
Oui, alors ce qui est conseillé déjà, c'est d'attendre 6 mois pour se faire vacciner et après de faire une dose, parce qu'en fait, une dose, on voit que ça suffit. Et finalement, les taux d'anticorps sont très, très élevés. Et une dose, pour quelqu'un qui a déjà fait la COVID, c'est encore mieux que 2 doses chez les autres. Donc, une dose suffit.
Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que cette émission a été enregistrée mardi 30 mars. Donc, merci à vous, Sophie Fégueux. Je rappelle que vous êtes médecin infectiologue chargée d'expertise et de projets sur les risques infectieux à Santé publique France. Merci à vous aussi, à Dr Anneau Marin. Je rappelle que vous êtes médecin basé à Abidjan. Vous êtes le directeur de l'espace médical La Pyramide à Abidjan. Vous pourrez télécharger cette émission sur les réseaux de la radio africaine.
Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.